Cube Radio.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
On est le 11 janvier 2022. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Écoutez, la saga, vraiment, on peut appeler ça une saga des influenceurs, des fêtards dans l'avion de Sunwing qui sont allés faire la fête au Mexique. Vraiment, ça fait le tour du monde. Et vous connaissez, bien sûr, l'animateur d'émission de fin de soirée, Jimmy Fallon, l'animateur du Tonight Show aux États-Unis. Ben, il en a parlé et ce qu'il avait à dire est absolument rigolo. Alors, je vous fais écouter l'extrait en anglais et je le commente tout de suite après.
We'll get this. A group of Canadian influencers filmed themselves partying maskless on a flight, sparked a huge public outrage. And now they're all stuck in Mexico because airlines are refusing to fly them home. Yeah, no better way to teach someone a lesson than forcing them to spend more time in Cancun.
Alors, il raconte, il dit, il y a un groupe d'influenceurs qui a fait le party dans un avion et les compagnies d'aviation refusent de les ramener au pays. Quelle meilleure façon d'apprendre une leçon, d'enseigner une leçon à quelqu'un que de le forcer à passer plus de temps au Mexique? Et après, il continue en disant, ben oui, prenez des margaritas à profusion. Ça va vous donner une leçon. Vous allez vraiment apprendre à mieux vous comporter. Et c'est vrai, Jimmy Fallon a raison d'une certaine façon. On punit pas les gens en les forçant à rester au Mexique. Je trouvais ça assez rigolo de voir que cette histoire-là, qui est quand même assez gênante, fait à tel point le tour du monde qu'elle fait même le tour des émissions de fin de soirée. Et je vous avoue que quand Jimmy Fallon a fait ce commentaire humoristique, j'ai poussé un très amusé. Ben voyons donc.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Préparez vos calendriers parce que dès dimanche prochain, le 16 janvier, c'est le retour de l'émission La Vraie Nature à TVA, animée par Jean-Philippe Dion. 37 invités, donc, dans le nouveau chalet de Jean-Philippe. Ils vont revenir dans leurs souvenirs d'enfance. Il va y avoir des fous rires sûrement, aussi quelques larmes. Il va y avoir 12 épisodes de cette émission vraiment chouchou de TVA. On en parle avec Jean-Philippe lui-même. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Sophie.
Je dois commencer en te disant tout de suite, je suis jalouse à mort. Ton chalet est absolument splendide. J'adore le lieu, j'adore la nature autour, j'adore la décoration. Je veux l'acheter, je veux aller habiter là, c'est magnifique.
Mais tu sais, pour vrai, j'ai été extrêmement chanceux de réussir à trouver ce lieu-là en pleine pandémie. Là, puis ça a été un coup de cœur absolu. Puis tu sais, moi, j'étais convaincu que jamais je retrouverais un chalet aussi intéressant, aussi agréable que l'ancien chalet qu'on avait pour l'émission. Et là, de me retrouver dans ce chalet-là, ça m'a pris peut-être une émission, deux émissions maximum à m'habituer, mais tout de suite, j'ai compris que la magie était pour opérer. Puis tu sais, j'ai quand même la chance aussi d'avoir une équipe extraordinaire pour aménager le chalet. Tu sais, si je suis arrivé dans mon chalet...
T'as pas fait ça tout seul!
Non, exactement, exactement. Il y a des gens extraordinaires qui ont réussi, qui m'ont vraiment beaucoup aidé, donc c'est vraiment un lieu paradisiaque.
Alors, quand on regarde la liste des invités, écoute, ça fait saliver, là. Sam Breton, Chantal Fontaine, l'ancien maire de Québec, Régis Labeaume, Mado Lamotte, Nathalie Simard. Écoute, c'est des noms que je fais juste aligner ces noms-là, puis je me dis, mais quel est le lien, quel genre de chimie il va y avoir entre ces invités-là? Si tu dois regarder ces 12 émissions-là, quel est la relation entre les invités qui t'a le plus surpris, Jean-Philippe?
Mais tu sais, c'est souvent intéressant lorsque une ou un des invités est un peu plus âgé. Par exemple, dans la première émission qu'on va voir là, ce dimanche, il y a Monique Jérôme Forget qui est là, donc ancienne ministre des Finances, présidente
Madame Sacoche.
Du Trésor. Oui, Madame Sacoche en personne, Madame Pépine aussi. Donc, oui. Monique est là. Puis, c'est beau de voir Karine Vanasse et Simon Boulris, donc les deux autres invités de l'émission. Mais je dirais encore plus Karine Vanasse parce que les regards, tu sais, que portent les autres invités sur quelqu'un qui a une réflexion de vie, qui a une expérience de vie encore plus grande, et surtout quelqu'un comme Monique Jérôme Forget qui reconnaît ce qu'elle a fait de bien, ce qu'elle a pas fait de bien. Elle se fout complètement de ce que les gens vont penser d'elle. Fait qu'il y a quelque chose qui fait vraiment du bien là-dedans par rapport à des artistes, par exemple, qui sont plus jeunes. Donc, tu sais, je m'inclus là-dedans, tu sais, où on va un peu plus surveiller ce que les gens vont penser. Nous, on veut être sûr que les gens vont nous aimer, tout ça. Mais quand on est rendu, je sais pas, à 75 balais, là, dépassé, à un moment donné, on se fait, hey, regarde, si les gens m'aiment pas comme je suis, ben, tant pis. Puis ça, c'est intéressant d'entendre ça.
Toi, est-ce que tu t'approches de ça? Est-ce que c'est quelque chose, une chose à laquelle tu aspires d'arriver à te dire, ben, moi, je m'en fous de ce que les gens pensent de Jean-Philippe Dion? Est-ce que c'est quelque chose une chose sur laquelle tu travailles, par exemple?
Je pense que ce serait faux de dire que je m'en fous. Je pense que ultimement, on fait ce métier-là aussi pour être aimé, puis pour avoir aussi de l'affection, parce qu'on doit être carencé quelque part. Mais en même temps, je suis pas quelqu'un qui non plus qui vit en regardant ce que les autres vont dire de moi sur les réseaux sociaux et tout ça. L'influence, la réflexion des gens autour de moi à mon sujet va m'importer plus que ce que quelqu'un qui ne me connaît pas va penser de moi. Mais en même temps aussi, tu sais, j'apprends aussi, puis j'ai beaucoup appris ça pendant ma carrière, à laisser tomber aussi l'espèce de quête de perfection absolue. Parce que ça, je pense que c'est un des éléments les plus négatifs dans une vie, là, tu sais, de vouloir être parfait. Il n'y a rien de plus plate qu'une personne parfaite. Il n'y a rien de plus lisse qu'une personne parfaite. Puis je pense que, tu sais, puis je le vois aussi, mes invités qui sont trop parfaits et qui veulent paraître trop parfaits, je trouve ça plate, je trouve ça pas intéressant, j'essaie de trouver...
Ça donne des moins bonnes émissions. Oui, ben, c'est ça donne des moins bonnes émissions.
Ben, je suis vraiment d'accord, puis tu sais, les personnes, en fait, il y a personne non plus qui est complètement lisse. C'est souvent parce qu'on tente, on pense que les gens vont nous aimer davantage si on se présente comme ça, mais tout le monde a une histoire intéressante, tout le monde est passé par quelque chose, puis c'est pas obligé d'être des histoires épouvantables et horribles, tu sais. Mais je l'ai vu avec certains invités cette saison qui sont aussi, ça c'est intéressant aussi, selon où tu es rendu dans la vie, selon ton âge, il y a souvent un peu le même type de réflexion. Tu sais, je réalise, je préfère écrire un livre sociologique avec de la vraie nature, mais tu sais, à la fin de la vingtaine, début de la trentaine, c'est vraiment le moment où les invités sont moins dans une analyse de vie, mais sont plus en mode « je suis sur l'autoroute, je conduis à vive allure, je réfléchirai demain au sens de ma vie, là j'avance ».
C'est intéressant, bon, c'est une belle image.
Souvent, ouais. Mais souvent, les invités un peu plus âgés vont dire, t'sais, par exemple, je pense à Dany Turcotte avec Rosalie Vaillancourt, t'sais, il y a une phrase bien ben forte, Dany, qui dit « calme-toi à Rosalie » parce que son métier, c'est tout ce qui est important, c'est juste ça, sa vie. Même chose pour Sam Breton, t'sais, qui réussit en ce moment, qui est partout, qui a un succès incroyable, mais les autres invités étaient comme « oui, mais tu vas comprendre plus tard ». Puis moi, je m'identifiais beaucoup à Sam, tu sais, qui est dans ça en ce moment, parce que je l'ai été, moi aussi, dans ce moment-là où tout va vite, on, tu sais, notre carrière va bien, puis on n'est pas dans un mode de réflexion, on veut juste avancer puis faire un bond encore plus grand. Mais à un moment donné, ça finit par nous rattraper, puis là, on commence à se dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment?
C'est très bon. Et l'analogie où tu disais, quand on est dans la vingtaine, on est comme sur l'autoroute, puis on fait juste aller très, très vite et on se pose pas trop de questions. Et plus tard, ben on regarde dans le rétroviseur pour reprendre l'analogie. Et là, quand on regarde dans le rétroviseur, il y a parfois des réflexions de vie. Mon collègue Jean-François Paquet, qui réalise l'émission, a fait un petit montage avec différentes, bon, la bande-annonce, différents extraits. Alors, on va écouter ça, des moments forts de ton émission qui commence dimanche.
Je déclare ce territoire conquis.
Tu m'enfermes.
Oh yes, j'ai des poules.
Oui, ça y est.
C'est magnifique.
Et j'ai pu creuser.
Wow. Ça, c'est trop cool.
Aimez-vous ça replonger, vous autres, dans votre enfance?
Moi, c'est une affaire que non.
Ça part bien.
Ça ressemblait à quoi ce qu'on faisait vivre au secondaire?
Je passais dans le corridor puis j'entendais quelqu'un murmurer.
Voyons, pourquoi on pleure tout le temps ici?
Merci de me donner la chance de vivre ça, ce qu'on vit là.
Bye bye!
Bye!
Ton histoire me rappelle ma vie.
Bon, la chanson est absolument magnifique. C'est « Je te fais confiance » ou « Fais-moi confiance », je me souviens jamais.
« Je te fais confiance », ouais, puis c'est signé par Rosalie Ayotte qui a participé à Star Academy l'année dernière. Puis c'est drôle parce que quand je lui ai demandé, lorsqu'elle a été éliminée, là, lorsque l'aventure s'est terminée pour elle, je suis allé la voir, puis j'ai dit « Rosalie, j'ai quelque chose pour toi, je vais t'en parler plus tard ». Puis quand on s'en est parlé, elle m'a dit « J'aime tellement la vraie nature ». Puis en une semaine, elle m'avait pondu un texte, une musique, et c'était exactement ça. Il n'y avait rien à changer.
C'est fou,
c'était
hein?
C'était parfait. Tu sais, la sensibilité d'une artiste, là, d'être capable de capter l'essence d'un projet, l'émotion dans un projet, puis transmettre ça en musique, ça m'a vraiment beaucoup touché. Puis cette chanson-là, c'est en fin de semaine, on l'a lancée vendredi dernier, puis en fin de semaine, elle était numéro un iTunes francophone, donc je me dis que les gens l'aiment aussi. Ouais.
Ça a touché une corde sensible chez les gens. Non, elle est absolument magnifique, cette chanson-là. Je veux parler du titre de l'émission, La vraie nature. Il y a vraiment un double jeu de mots, en fait, entre la vraie nature d'une personne et la vraie nature, donc le contact avec la nature. Puis on est tellement, comme personnage urbain, déconnecté de la nature. Dans quelle mesure, Jean-Philippe, le fait que l'émission soit tournée dans un chalet bucolique, les gens sont à l'extérieur, le contact avec les arbres, capturer le brin d'herbe, comme disait Paul et Paul. Oui. Dans quelle mesure ce contact-là avec la nature, ça peut être un élément déclencheur pour des invités?
Bien, c'est sûr que cette émission-là, tournée dans un quatrième sous-sol à TVA, ça ne se donnerait pas la même chose du tout, du tout. Puis tu sais, toute l'équipe de Déferlante, on met beaucoup d'énergie et de temps sur des choses que peut-être que ça vaudrait pas la peine, peut-être que c'est du temps gaspillé, mais on
comme
veut
quoi?
Vraiment que l'expérience...
Comme quoi, par exemple?
En fait, juste être sûr, tu sais, quand on a eu le chalet, OK? Et là, je trouvais que les plantes autour du chalet étaient pas belles, puis que c'était pas assez beau à l'œil. On a fait planter des plantes, on a embauché une équipe de jardinage pour venir, on a installé une pergola en nature, parce que je trouvais que de pas manger à l'extérieur puis d'être toujours en cabanier à l'intérieur, c'était pas intéressant. Puis il y a comme plein d'affaires qu'on a fait pour être sûr que les invités vivent une expérience puis que tout soit parfait. T'sais, quand ils arrivent, ils ont des cadeaux sur leur lit. On a testé les oreillers, le matelas, comme tout est fait pour que l'expérience des invités soit extraordinaire. T'sais, si je sais que tel invité aime telle sorte de vin rouge, ben il va avoir ce vin rouge-là au souper. Si on sait qu'il aime les chips au ketchup, ben sur la table, à leur arrivée, il va avoir un plat de chips au ketchup. Là, donc, on va vraiment loin dans l'expérience qu'on offre à ces invités-là. Puis, pour revenir à ta question sur la nature,
oui.
C'est sûr que ça change complètement parce que les invités, c'est juste la barque là, dans le format de cette émission-là, parce que La vraie nature, c'est un format français, puis ils utilisent la barque aussi. Mais la barque est faite pour déconnecter. T'sais, c'est vraiment la déconnexion qui se crée. Donc, entre la vie d'avant puis la vie des prochaines heures. Donc, l'invité, en fait, c'est sûr qu'en faisant, en essayant de manipuler la barque et de ramer, ben oublie ses tracas, oublie ses soucis, puis là, tombe aussi dans une espèce d'ouverture. Puis on le voit, là, l'invité qui est un peu stressé avant d'embarquer dans la barque, une fois qu'il arrive sur le terrain du chalet, après avoir franchi la rivière, ben il est dans une autre disposition totale. Puis tu sais, le temps qu'on les laisse aussi avant que moi j'arrive, c'est aussi, ils profitent du terrain, ils se balancent sur la
galerie. Mado Lamotte.
Donc c'est... Oui, ben exactement, Mado avec ses talons hauts et sa valise dans les rochers. C'est magnifique, mais c'est sûr que la nature apaise aussi, puis ça fait du bien, tu sais.
Ça fait du bien. Écoute, je veux revenir dans l'extrait qu'on a entendu. Il y a Simon Boulris, donc qu'on va retrouver dans la première émission du 16,
ouais.
Qui raconte donc quand il était ado, ben à l'école, les gens quand ils croisaient dans le corridor le traitaient. Je m'excuse, je vais le dire là, mais de sti de fif. Ça vient te chercher.
Ben c'est sûr que ça vient me chercher. Puis je pense aussi qu'une bonne entrevue part souvent aussi d'éléments qui nous en tant qu'intervieweurs va nous toucher, va nous interpeller. T'sais. Moi, en ce moment, je suis famille d'accueil. T'sais, donc, c'est sûr que toutes les histoires d'adoption cette saison ont une résonance vraiment différente pour moi. T'sais, je pense à Elisapi Isaac qui a été adoptée. Donc, vous allez voir, il y a un moment au souper quand Elisapi parle, qui vient vraiment me chercher, ça m'émeut. C'est très rare que je vais me laisser complètement émouvoir parce que je veux garder le contrôle, moi, pendant mes entrevues. Mais quand ça vient chercher comme ça une corde très sensible, tu sais, que tu vis en ce moment, c'est sûr que moi ça m'interpelle. Puis même chose pour Simon, tu sais. Puis je pense que je me fais un devoir aussi de parler justement d'orientation sexuelle parce que tu sais quand on est passé à travers ça puis qu'on l'a vécu parfois difficilement, là, tu sais, je pense que c'est important aussi puis on a un devoir aussi d'en parler puis d'essayer de faire tomber les tabous.
T'as dit une phrase extrêmement importante tout à l'heure, je l'ai notée sur mon petit bout de papier bleu ici, devant mon micro. Ah. T'as dit « tout le monde a une histoire intéressante ». Et je pense que c'est ça ta force, Jean-Philippe, c'est que on te mettrait devant la personne peut-être qui a l'air la plus plate ou la vie la plus beige, et t'arriverais à trouver quand même un quelque chose, une faille ou un... je trouve que ça résume un peu ta philosophie de vie. Tout le monde a une histoire intéressante. C'est un peu la méthode, Jean-Philippe Dion, quand même, que tu nous as résumé là.
Ben, tu sais, puis j'ai toujours en tête une émission qu'un jour, peut-être que j'animerai ou que je produirai, je sais pas, mais qui démontre ça, que tout le monde a une histoire, tu sais. Parce que souvent, il y a des gens, tu sais, en fait, il y a beaucoup de gens du public qui m'écrivent pour me dire, hey, moi, j'aimerais ça participer, j'ai une histoire, tu sais, j'ai envie de partager quelque chose. Mais je suis convaincu que même si toi, tu penses pas avoir une histoire, il y a quelque chose d'intéressant à transmettre de ton parcours, tu sais. Puis même, tu sais, j'ai eu des invités, je pense à Sébastien Benoît, qui est arrivé en disant « moi, j'ai pas d'histoire », tu sais. Mais finalement, son pas d'histoire a été la meilleure histoire de cette émission-là. Hmm. C'est ça qui a été intéressant à analyser, que lui, il trouve donc qu'il n'y a pas d'histoire, que son histoire n'est pas intéressante. Mais au final, c'est pas vrai, puis c'est ça qui est intéressant d'analyser pendant l'entrevue. Donc, ouais, ben en fait, j'aimerais ça l'essayer à un moment donné, tu sais, de rencontrer des gens, puis de faire, hey, je sais rien de toi, mais je vais trouver la bonne histoire que tu pourrais raconter.
Mais moi, j'achète le concept tout de suite. On appelle TVA, ah, puis on leur dit, on produit cette émission-là. Moi, je vais la produire même. Non, mais donc on prendrait, mettons, Jean-Philippe Dion, on l'emmène au Carrefour Laval ou la Place Laurier à Québec, puis on te met un bandeau sur les yeux et on prend des gens totalement au hasard, puis on met deux chaises en plein milieu du Carrefour Laval, puis on dit, vas-y, Jean-Philippe, trouve c'est quoi la faille, c'est quoi la lumière, la bougie d'allumage de cette personne-là. Je suis sûr que ça ferait une émission extraordinaire.
Ouais, ben bientôt dans votre télé, une production Sophie Durocher.
Faut qu'on trouve un nom pour ma compagnie de production. Jean-Philippe, c'est vraiment
exact.
Et écoute, c'est toujours un plaisir de te parler. Donc on va écouter ça dimanche prochain, le 16 janvier, ça commence sur les ondes de TVA. 37 invités dans ton nouveau chalet. Qu'est-ce qui est arrivé avec l'ancien chalet? Tu l'as vendu, tu l'as loué, qu'est-ce qui est arrivé?
Ouais, ben en fait, c'est mon associé qui était propriétaire de ce chalet-là
Clermont.
Qui a été vendu. Monsieur Clermont, exactement. Donc, Monsieur Clermont, pendant la pandémie, a vendu le chalet. Mais là, je me suis assuré cette fois-ci que le chalet ne repartirait pas en devenant propriétaire. Donc, puis il manquait pas Star Academy aussi. C'est le grand retour dimanche soir. Puis on est en répétition en ce moment. Et ça va être vraiment un bon choix avec Daniel Bélanger. Les candidats sont solides. C'est vraiment, ça va être un bon lancement de Star Academy.
Oui, ben non, c'est ça, parce qu'on peut pas parler de tous les chapeaux que tu portes, parce qu'ils sont nombreux, mais tu fais bien, en effet, de parler de cette petite émission, une toute petite production qui t'occupe tout petit peu Star Academy. On avait fait le choix aujourd'hui de plus mettre l'accent sur la vraie nature, mais c'est vrai qu'on aurait pu aussi tout à fait parler de plein d'autres projets à toi. Merci beaucoup, Jean-Philippe, c'est toujours un plaisir de te parler.
Ben, merci, Sophie, c'est très gentil. Bonne journée.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir, avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio.
Les rencontres de l'heure.
Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
La rencontre Barrette-Durocher.
C'est vraiment un extrait qui a fait le tour du monde, le tour du web. Le chanteur belge Stromae qui est interviewé dans un téléjournal et qui, en plein milieu, se met à chanter.
Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer?
Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière.
Marie-Claude Barrette avait envie de nous parler de ça aujourd'hui. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Sophie.
C'est un extrait quand même très prenant, hein?
Hey, mais très, très prenant, surprenant au moment où ça arrive. On ne s'attend pas à ça du tout dans un bulletin de nouvelles, un bulletin télévisé. Mais des mots d'une force, hein. Il n'y a pas de détour, c'est frontal. Il nomme les choses. Il dit « j'ai eu des idées suicidaires ». Tout ça en regardant la caméra, donc en s'adressant. Ça aussi, c'est particulier dans un bulletin de nouvelles pour l'invité de s'adresser directement aux téléspectateurs. Et je sais qu'il y a eu énormément de répercussions après sa passée dimanche soir en France. Et tout de suite après, les réactions ont été nombreuses. Suite à ce que Stromae a dit, je pense qu'il a... Tu sais, le tabou des tabous, c'est encore la mort.
Absolument.
C'est la plus grande peur des gens, c'est la mort. Ça revient, peu importe l'époque, peu importe nos origines, c'est quand même le tabou des tabous. Alors, d'arriver à heure de grande écoute, dans un lieu où on ne l'attend pas, se mettre à chanter les mots de sa chanson « L'enfer », et de nous regarder et de nous dire ça, je veux dire... Ça peut pas nous laisser indifférents parce que il y a deux choses là-dedans. Il y a le fait que ce soit fait dans un moment où on s'y attend pas dans un téléjournal. Mais au-delà de ça, en ce qui me concerne, je trouve que le suicide, les pensées suicidaires méritent qu'on brise les codes, méritent d'attirer l'attention parce que ce dont on parle aujourd'hui, c'est probablement, on parle de ça parce que c'est arrivé à ce moment-là. Et dans toutes les... en Europe, ça, partout on en parlait. Maintenant, on en parle ici aussi, évidemment. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé avec ça et les centres d'appel ont été débordés et les gens semblaient dire « enfin ». Quelqu'un qui met des mots sur la honte, parce qu'il le dit aussi dans sa chanson.
J'en suis pas fière.
Mm-hmm. J'en suis pas fière exactement d'avoir eu ces pensées-là. Alors ça, c'est souvent ce que les gens n'osent pas dire. Alors, il s'est passé quelque chose, tu sais, dans l'univers médiatique, ça a été un grand coup de Stromae.
Voilà. Alors donc, moi, je vais ne pas être d'accord avec toi aujourd'hui. C'est peut-être une des premières fois. C'est-à-dire que, bon, évidemment, personne est contre la vertu. C'est sûr que ce moment-là va rester dans les annales de la télévision, va rester dans les annales des médias comme étant un moment fort, extrêmement touchant, extrêmement troublant. Et je veux commencer en disant, en saluant Stromae, parce que de mettre les mots sur les choses et de mettre les mots sur la douleur, c'est extrêmement important. Donc, mon blâme ne va pas à Stromae. Mon blâme va aux décideurs de TF1, donc station de télévision publique en France, qui se sont mis à genoux au nom d'un marketing commercial. Parce que Stromae, il veut bien sûr nous sensibiliser à la cause du suicide, mais il veut surtout vendre des disques, il veut vendre son nouvel album... et que il est fait en accord avec un bulletin de nouvelles. Donc normalement l'information c'est sacré. L'information ne se mêle pas de marketing, ne se mêle pas de vente, ne se mêle de rien sauf de l'information. et que donc le bulletin de nouvelles ait dit à Stromae, OK, notre journaliste va te poser cette question-là, parce que c'est sûr que c'est de connivence avec la journaliste. T'imagines, c'est comme si on disait à Sophie Thibault, ben tu vas poser telle question pour qu'on puisse plugger un disque. Là, je veux dire, c'est comme, moi je trouve ça, d'un point de vue journalistique, je trouve que c'est ça crée un malaise.
Mais t'as pas l'impression, Sophie, que moi j'ai pas, c'est pas comme s'ils l'ont tout le temps fait là. C'est probablement la première fois que TF1 fait quelque chose dans ce sens-là. Mais je trouve que le faire pour parler du suicide de cette façon-là, moi, j'ai comme l'impression que ça peut être une raison suffisante pour faire un encoche dans le code journalistique, dans cette façon de faire. Parce que, tu sais, oui, il y a de la promotion, mais il y en a qui parlaient, je disais aussi, de sensationnalisme. Et moi, ce qui me choque des fois quand je regarde un bulletin de nouvelles, que ce soit un peu partout, parce qu'on sait combien il y a de catastrophes naturelles sur la planète, quand des fois je vois un journaliste se mettre les pieds dans l'eau puis être au vent, puis tant mieux, tu sais, oui. Il va partir au vent. Tu vois,
ça c'est du sensationnalisme.
Énormément quand je regarde ma télé. Est-ce que j'ai vraiment besoin de voir un journaliste se mettre presque en danger alors qu'il y a des gens qui sont déjà en danger? Tu sais, la nouvelle, c'est de parler de ceux qui sont en danger. C'est pas de voir quelqu'un qui volontairement veut en mettre plus que ce qu'on a de besoin pour comprendre. Alors, tu sais, pour moi, il y a comme quelque chose là-dedans qui pourrait se ressembler. Et là, c'est sûr que, bon, il y a la vente de son album Multitude qui va sortir au mois de mars. Évidemment, c'est un coup de marketing extrêmement, je trouve, brillant. Est-ce qu'il y aura des conséquences? Moi, je me demande ça. Toi qui es journaliste, moi, je suis plus observatrice du milieu journalistique. Je me sens pas à l'intérieur de ce milieu-là. Est-ce que toi, tu penses qu'il y aura des conséquences pour TF1, pour aussi la journaliste Anne-Claire Coudray qui a participé à cette mise en scène?
Ben écoute, moi, mise en scène, tu vois, c'est ça, c'est le mot, c'est que moi, c'est ça qui me dérange, c'est que normalement, dans un bulletin de nouvelles, il y a une sorte de rigueur, il y a une objectivité, c'est-à-dire que, comme journaliste, tu poses des questions, mais tu ne t'impliques pas, tu peux avoir de l'empathie, tu peux avoir de la bienveillance, mais tu n'es pas partie prenante, et c'est ça qui m'a gênée de la part de cette journaliste et de la direction de TF1, c'est qu'ils ont dépassé la ligne, la frontière, qui est selon moi une frontière qui doit être infranchissable, où tu n'es plus un simple observateur, t'es un acteur de l'actualité. Et moi, oui, je pense qu'il devrait en tout cas y avoir des conséquences, parce que tu dis, Marie-Claude, et tu as tout à fait raison, c'est la première fois qu'ils le font. Mais justement, après, une fois que t'as mis la main dans l'engrenage, après, qu'est-ce qui va empêcher, mettons, un autre artiste qui va avoir un autre patente à vendre, ça va être un livre, ça va être un film, de dire, ben, ils vont approcher la direction de TF1 en disant, ben moi aussi j'aimerais ça une mise en scène, mais au nom de quoi la direction de TF1 va dire, ben non, on le fait pas, c'est contre les normes journalistiques de la maison, ben ils vont dire, ben vous l'avez fait avec Stromae, pourquoi vous le faites pas avec moi? Tu comprends, c'est plus la question de dire, à partir de maintenant, pourquoi, comment la direction de TF1 va pouvoir dire, ben on le fait pour tel artiste mais on le fait pas pour tel autre, ou on le fait pas pour tel, imagine si on l'avait fait, mettons un politicien qui avait choisi une noble cause de venir parler du fait qu'il a déjà eu des pensées suicidaires, mais qu'il avait fait de concert avec la journaliste en disant, ben tu vas me poser telle question puis tu vas voir la façon dont je vais répondre, ben là les gens auraient pu dire, ben c'est pour une bonne cause, c'est pour parler du suicide. Oui, mais pendant ce temps-là, le politicien, il se fait du capital politique.
Mais peut-être que ça se fait, mais on le sent pas. C'est parce que là, il y avait de la musique. Puis, tu sais, je veux dire, peut-être qu'il peut avoir des questions placées des fois, mais on le sent pas, on le sait pas. Mais je pense qu'une chanson dans un bulletin de nouvelles, là, ça pouvait pas passer inaperçu. Ça pouvait pas avoir de l'air spontané d'aucune manière, tu sais. Oui. Parce qu'à la limite, Stromae aurait pu partir à chanter d'une façon tout à fait spontanée.
C'est ça. S'il avait chanté a cappella, puis tout ça, mais non, l'idée, c'est que c'était fait de concert avec la journaliste. Et je vais te donner un exemple. Moi, quand je fais des entrevues, puis je suis sûre que c'est la même chose pour la plupart de mes collègues, des fois, les gens sont très nerveux avant l'entrevue, puis les gens me disent « Est-ce que tu vas me poser telle question? J'aimerais que tu me parles de telle chose, telle affaire, je veux absolument pas t'en parler. » Mais je veux dire, ça marche pas. On ne peut pas fonctionner comme ça. Donc moi, je dis non. Je dis soit vous acceptez de venir en entrevue, puis vous acceptez que moi, je pose mes questions avec ma liberté journalistique, soit on fait pas d'entrevue. Vous allez pas commencer à me dicter quelles questions je vous pose ou de quelle façon je formule les questions. Et c'est ça qui me chicote. À partir du moment où tu dis à un invité, on s'entend sur une question, moi, je pense que tu viens de perdre une partie de ta rigueur journalistique puis une partie de ta crédibilité journalistique, parce que, en effet, après ça, on va se poser la question, quand il reçoit un politicien, est-ce qu'ils se sont entendus sur les questions?
Je trouve que ça met un doute. Cette question-là. Ouais. Tu sais, j'aurais aimé voir les réunions qui ont précédé cette prise de décision-là. Tu sais, c'est pas vrai que c'est arrivé, on va recevoir Stromae, il va partir sa toune, tu vas poser cette question-là. C'est pas ça pantoute, là. C'est vraiment, il a dû avoir des pour, des contre. On le fait, on va vivre avec les représailles, mais comme téléspectatrice que je suis...
Ah, c'est fort!
Moi, j'ai bien aimé ça.
Il faut pas bouder!
Mais moi, j'ai aimé qu'on brise un code. Moi, j'ai aimé, garde, il reste que... C'est un peu, tu sais, je viens de sortir... on a fini hier le tournage du projet Innocence Québec où je suis vraiment arrivée dans un monde de criminalistes, un monde où on parle du système juridique. Et on a tout le temps l'impression que rien ne peut se changer, mais c'est toujours bien du monde qui ont écrit des lois, qui ont fait des règlements. J'ai toujours de la misère, moi, avec ce qui est immuable, alors que c'est complètement humain. Et là, je me dis, bon, est-ce qu'on le fera d'autre? La notion de parler ouvertement de suicide, alors qu'on sait à quel point présentement c'est une période qui est fragile pour plusieurs, qui les amène justement dans les bas-fonds de penser au suicide. Est-ce que c'était pas comme dire, hey, nous, là, on fait ça, on va prendre soin de notre monde. C'était le retour aussi des vacances de Noël. C'est comme on lance la saison d'hiver. Et on sort de notre aquarium, on fait exploser les affaires et on parle au monde. Tu sais, je me demande, moi là, je trouve ça audacieux, ce geste-là. Mais moi, je comprends ton aspect journalistique, mais tu sais, je me dis, pour le monde comme moi, là, qu'est-ce qu'on retient en fait? C'est que Stromae a parlé ouvertement de ses pensées suicidaires, qu'il revient de loin, qu'il veut en parler aux gens. Présentement, il va bien. C'est toujours mieux d'en parler quand on va bien. Je trouve que c'est là que s'enlevait le côté sensationnaliste, le côté qui aurait pu être choquant, le côté qui aurait pu être voyeur. On ne glorifie pas non plus le suicide du tout. C'est juste qu'on comprend et qu'il faut en parler. Et tu sais, pour ça, moi... Je suis d'accord. Tu sais, si ça avait été pour juste lancer un album, tu sais, pour n'importe quelle chanson, mais là, je pense que le suicide était comme probablement ce qu'ils ont fait, qu'ils ont dit, OK, on y va. Mais ça fait parler. Je trouve que ça fait quasiment du bien dans ce qu'on est en train de vivre, de voir qu'on peut faire des choses qui choquent à quelque part.
Et qui puis de l'humanité. Puis de l'humanité aussi, c'est-à-dire que normalement, un bulletin de nouvelles, c'est plus froid, c'est plus, bon, je vais vous dire les nouvelles, puis il se passe telle chose, puis bon, tu sais, mais là, c'était vraiment deux êtres humains qui étaient dans leur faille, dans leur vulnérabilité, donc ça, c'est le côté, c'est la Sophie bienveillante qui est d'accord avec ça, mais j'ai un vieux fond de cynisme, et moi, quand tu dis... j'aurais aimé ça assister à une réunion pour voir comment ça s'est décidé. Moi, je pense que fondamentalement, c'est un média qui dit, ben nous, on va s'attirer énormément de visibilité. Imagine le nombre de clics qu'il va y avoir. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui y a pensé quelque part en disant, hey, c'est un stunt publicitaire. On va avoir plein de clics. Ça va être bon pour nous. Et je pense que c'était sûrement numéro un dans leur considération et que faire du bien à l'humanité, parler d'un sujet tabou, c'était peut-être numéro deux. Peut-être numéro 3, mais certainement pas leur préoccupation numéro 1. En tout cas, ça, c'est mon côté Sophie cynique, là, qui est jamais bien loin. Mais c'est pour ça que c'est bien qu'on soit toutes les deux ensemble, parce que moi, il y a la vilaine Sophie cynique, puis la gentille Marie-Claude, qui a plus foi en l'humanité.
Ouais, moi, je suis là, ça peut aider les gens, mais surtout, j'ai lu partout à quel point les téléphones ont sonné partout sur les lignes d'écoute, à quel point ça a eu un impact. Et ça, pour moi, c'est important parce que je trouve en plus qu'on est dans une période difficile présentement. Je trouve que la période dans laquelle on vit est encore plus difficile qu'il y a deux ans.
Oui, parlons-en. Parlons-en, oui, parce que toi aussi, toi et moi, on s'inquiète toutes les deux de notre entourage, on s'inquiète pour nous-mêmes, on s'inquiète des gens qu'on pensait plus solides, qu'on découvre fragiles.
Ben moi, il y a un ami qui m'a écrit pendant le temps des fêtes parce qu'une fois de plus, il devait annuler un paquet de choses qu'il avait prévues, mais comme tout le monde, mais il m'a écrit, tu sais, Marie-Claude, le temps perdu ne se rattrape plus. Et là, je comprenais, tu sais, quand tu as été malade, puis c'est une personne qui a été malade, qui a réussi à s'en sortir, et là, qui a des projets, et là, tu vois que ça s'annule, et que tu vois que le temps que tu devais passer avec tes petits-enfants, avec les gens que tu aimes, ben il faut aussi que tu les repousses. On a tous vécu ça, et je trouve que cette phrase-là, le temps perdu ne se rattrape plus, et je me disais, ça veut dire qu'il faut quand même donner un sens au temps qu'on est en train de vivre. Pis c'est pas toujours facile, parce que tu sais, tu as un fils, moi j'ai des enfants, tu sais, ils sont dans une période où tout devrait être permis pour eux. Tu sais, une période où tu n'as pas tant de responsabilités, où tu as une indépendance dans la vie. Tu n'as pas besoin de travailler pour tout payer. Tu sais, quand tu es étudiant, il y a comme tout est possible. Tu peux étudier dans ce que tu veux. Moi, je trouvais tellement que moi, quand j'ai vu que cette période-là, tu sais, c'était comme l'exaltation à son summum aussi. Et là, quand j'ai fait un tour de table avec mes enfants à Noël, ça n'allait pas du tout, là. Et ça m'a comme rentré dedans, tu sais, d'entendre dire, ben regarde, il y en a un qui m'a dit, ben moi, je trouve ça très difficile. J'ai plus envie de gamer. Là, j'étais, ben voyons donc, ben qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, il y a tout le temps une porte fermée partout.
Oui.
Il y a tout le temps, alors, tu sais, puis le présentiel est important pour nos jeunes.
Ben écoute, on est premièrement comme être humain, on est des bêtes sociales, hein. On oui. vit quand même de ça. Et l'adolescence ou les jeunes adultes, c'est le moment où tu crées des amitiés, c'est le moment où tu te définis en te séparant de tes parents et en te rapprochant de tes amis et de leur couper ça. Je me demande vraiment ce que ça va avoir comme impact à long terme. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, Marie-Claude, mais sais-tu quoi? C'est tellement important. J'aimerais ça qu'on en reparle ensemble, toi et moi, demain, pour essayer de trouver peut-être des solutions, des façons justement de maintenir ce lien social-là, qui est si important, parce que Jaïssa est obligée de t'interrompre quand on est parti sur une bonne lancée. Alors,
non, mais parce
on se dit...
ça touche beaucoup de monde, on prendra le temps, effectivement, parce que moi, tout autour de moi, je sens une grande lassitude qui s'installe.
On va en parler demain, c'est promis. Merci beaucoup, ma belle Marie-Claude. À demain!
À demain, bye-bye.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez Sophie Durocher.
Vous connaissez bien sûr André Pratt, ancien éditorialiste en chef de La Presse, ancien sénateur et maintenant commentateur sur différentes plateformes. C'est toujours intéressant de lire et de dialoguer, de débattre avec lui. Sa chronique la plus récente dans le journal anglophone The National Post est assez intéressante. Ça s'intitule « Contrôler la COVID et nous-mêmes, c'est une mission impossible ». Il dit « Il y a un moment où la volonté du gouvernement de contrôler nos vies devient tellement arbitraire et c'est tellement, ça va contre nos droits, ça devient contre-productif. » André Pratt est au bout de la ligne. Bonjour André, comment allez-vous?
Bonjour Sophie, ça va bien vous-même?
Ça va très bien. Écoutez, ce texte-là est très intéressant. Il fait partie d'une réflexion plus vaste que vous faites, que ce soit dans les pages de différents journaux ou sur vos différents médias sociaux. On sent que tout le monde est à bout pour utiliser une expression bien québécoise. Est-ce que c'est un peu ça qui ressort de vos différentes interventions?
Oui, évidemment, il y a beaucoup de frustration, d'inquiétude, de colère, parce que les gens sont tannés, disons-le. Maintenant, donc j'essaie d'aller un peu plus loin que ça, en me demandant est-ce que, en fait, pour résumer, là, moi, ce qui m'inquiète, c'est que le gouvernement, pour des raisons de lutte à la pandémie, a vraiment instaurer un système de contrôle très détaillé de nos vies. quand on regarde les différentes règles qui s'appliquent, que ce soit le nombre de personnes qu'on peut recevoir chez nous, de quelle d'où peuvent venir ces personnes, si elles sont vaccinées, si elles sont pas vaccinées, quand est-ce qu'on porte un masque, quand est-ce qu'on n'en porte pas, quelle est la distanciation sociale. Il y a beaucoup de règles très détaillées, y compris le couvre-feu, évidemment. Et l'interrogation que j'ai, c'est quand est-ce que c'est trop? Parce que on a tendance, parce qu'il y a une pandémie, à se dire que, surtout quand la pandémie s'aggrave, on a tendance à penser que, bon, ben si le gouvernement pense que c'est la bonne chose, on va le faire. Mais c'est quand même une invasion extrêmement préoccupante de nos libertés fondamentales. Et je suis pas en train de dire que toutes ces mesures-là sont injustifiées, c'est pas ce que je dis, là, faut mettre la nuance. Mais il faut quand même au moins regarder, observer et s'inquiéter parce que ça peut servir de précédent aussi. Alors moi, c'est pas tellement le fait que le gouvernement agisse, c'est que le gouvernement essaie de contrôler dans les moindres détails notre vie privée. Et ça, je trouve que c'est préoccupant.
Oui, c'est préoccupant. Et quand je disais tout à l'heure les gens sont à bout, c'est aussi en fait référence à ce sondage léger qu'on peut lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec ce matin sur l'appui de la population aux différentes mesures sanitaire, ça a quand même glissé et depuis le mois de décembre, ça a vraiment fondu comme neige au soleil parce que, ben, au début, les gens étaient prêts à dire bon, d'accord, on est prêt à faire un effort, mais cet appui-là aux mesures sanitaires, il n'est plus là. Et quand vous dites, André, que c'est une intrusion dans notre vie privée, quand le gouvernement est rendu à nous dire « ben vous pouvez pas recevoir quiconque chez vous si les gens ne sont pas doublement vaccinés », il y a plein de gens qui ont envie de dire « de quoi tu te mêles ?»
Ouais, puis ce qui est intéressant, c'est de regarder, de comparer avec d'autres pays ou d'autres provinces, au Canada par exemple, où les mesures sont assez différentes, même si évidemment les objectifs visés sont les mêmes. Quand on regarde le nombre de personnes qu'on peut recevoir chez nous, par exemple, bon ben ici c'est la bulle plus une personne, si c'est une personne seule qui vient d'une autre bulle, peut-être avec ses enfants. En Ontario, c'est 5 personnes, point. Dans les lieux de culte, ici, dans les commerces ou les lieux de culte, ici, c'est 20% de la superficie. En Ontario, c'est tant de personnes. Alors, et là, tu dis, ben, sur quoi sont basées ces règles-là? Si au Québec et en Ontario, les spécialistes ne s'entendent pas sur les règles, ça veut dire qu'il y a un peu une part d'arbitraire là-dedans. Et c'est ça qui m'inquiète. Et là, encore une fois, je précise, parce que je veux pas dire que je suis contre toutes ces mesures-là, mais je soulève la question pour que les gens réfléchissent à ça. Et se demandent, est-ce que jusqu'où ça va aller? Et je pense que la goutte qui a fait déborder le vase, c'est le couvre-feu.
Absolument.
Parce que Il n'y a pas de démonstration. Le couvre-feu, c'est une mesure extrêmement sérieuse. Et il n'y a pas de démonstration claire, sauf ce que M. Legault dit, qui est de dire, ben c'est le gros bon sens, s'il y a un couvre-feu, il y a moins de personnes dans les rues, donc il y a moins de contacts. Oui, mais tu sais, les droits fondamentaux dont on parle souvent un peu à la légère, c'est quelque chose de très précieux, là, tu sais. Et la liberté de pouvoir mener sa vie comme on l'entend, en autant évidemment que ça viole pas les droits des autres personnes, c'est une liberté extrêmement importante dans nos pays. Et il faut la préserver, puis il faut pas que le gouvernement, tout simplement par décret, sans débat, sans discussion, puisse régler ça comme on règle une montre, là. Il faut faire attention à ça.
Voilà, parce que en fait, c'est toujours le danger, c'est que une mesure qui est temporaire devienne permanente, ou enfin que le gouvernement y prenne goût, c'est-à-dire que le gouvernement adore, commence à aimer ça de gouverner par décret et qu'il en prenne l'habitude. Pour revenir à la question du couvre-feu, de toute façon, on s'entend, il fait à peu près moins 45 dehors, les cinémas sont fermés, les restaurants sont fermés, les salles de spectacle sont fermées, donc on n'aurait pas grand endroit où aller, mais juste le fait de savoir qu'on n'a pas le droit de sortir, c'est frustrant. Et on se dit, ben le gouvernement a pas d'affaire à me dire que j'ai même pas le droit de sortir de chez nous. C'est quand même un droit assez, la libre circulation des individus, c'est quand même un droit fondamental, là.
Oui, absolument. Puis là, alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relu la Charte canadienne et la Charte québécoise, oui, qui se ressemblent, mais qui sont un peu différentes. Et tu sais, ces droits-là sont là pas pour rien. C'est pas le plaisir, là. C'est pas juste. Je veux dire, c'est un droit. Donc, avant de violer ce droit, il faut, le gouvernement est tenu de faire un certain nombre, d'avoir un certain nombre d'étapes, de prendre des mesures législatives, dans d'autres termes, de débattre et de justifier ses choix. Et c'est ça qui, à cause de l'état d'urgence climatique, c'est ça qui est absent. Et quand on voit la loi sur la santé publique, par exemple, la vaccination obligatoire, là, il y a des gens qui commencent à parler de ça. Je pense pas que le gouvernement du Québec aille jusque-là, mais le gouvernement
du ministre
Canada
Duclos, le ministre Duclos a quand même ouvert la porte.
Tout à fait. Alors, quand on regarde la loi sur la santé publique, ce que la loi permet dans un état d'urgence sanitaire, c'est que si la vaccination est obligatoire, on peut amener une personne non vaccinée devant un juge, et si le juge croit que cette personne-là ne se fera pas vacciner, on peut l'amener, entre guillemets, de force, à un lieu de vaccination pour la vacciner. Là, c'est quand même assez incroyable, ça. Parce que je comprends qu'il y a une urgence sanitaire, mais forcer quelqu'un avec la police pour se faire vacciner, pour donc recevoir un traitement médical que la personne ne souhaite pas recevoir, quelle que soit la raison, c'est une mesure extrême. Et c'est dans la loi sur la santé publique. Et j'ai regardé dans les débats sur cette loi-là en 2001, il n'y a eu aucune objection de personne. Alors, c'est quand même une mesure grave que le gouvernement pourrait mettre en place éventuellement.
Oui, et savez-vous quoi, André, si jamais, ça m'étonnerait qu'on en arrive là, mais imaginez la première fois qu'il y a quelqu'un, mettons deux policiers ou deux militaires qui vont amener justement Manu Militari, quelqu'un se faire vacciner de force, ben justement les opposants au vaccin vont trouver là l'occasion parfaite de dire « Ah, vous voyez, on vous le dit depuis le début que c'est une dictature, on vous dit depuis le début que c'est un vaste complot mondial. » Ça va en fait, au lieu de donner le goût aux gens d'aller se faire vacciner, ça va juste donner raison aux extrémistes, en fait.
C'est pour ça que je pense pas que le gouvernement du Québec va aller là, mais ça vous montre quand même que dans un texte de loi, on a mis ça. C'est pas une mesure banale. Et même la vaccination obligatoire, parce que ça, on s'entend pas exactement sur ce que ça veut dire, vaccination obligatoire. Mais par exemple, si on rendait illégal le fait d'être non vacciné, puis qu'on mettait des amendes, par exemple, des amendes significatives. Bon, ça aussi, ça a un impact sur les gens. Tu sais, le choix, et je comprends toute l'idée que les non-vaccinés posent un danger pour les autres. Et donc, il faut faire le débat d'équilibre entre le droit des individus et les besoins de la société. Mais c'est ce débat-là qui n'a pas vraiment eu lieu au Québec jusqu'ici, pas juste au Québec d'ailleurs. Et c'est ce débat-là, dans le fond, que je souhaiterais qu'il y ait lieu. Je ne veux pas dire que c'est un débat qui prend, des semaines et des semaines, mais à tout le moins, il faudrait que cette question-là soit débattue un peu plus, de façon un peu plus complète, et surtout avec, en perspective, le respect des droits et libertés qui sont fondamentaux. Ils sont fondamentaux pas pour rien, parce que c'est la clé de ce que sont nos sociétés démocratiques.
Oui. Il y a dans les mesures gouvernementales quelque chose de très intrusif. Moi, je veux dire qu'on réglemente bon les comportements en société, qu'on ferme des commerces, qu'on ferme les cinémas, qu'on ferme bon tout ça. Je peux le comprendre parce que c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur. Mais quand on vient avoir des lois sur ce que j'ai le droit de faire entre les quatre murs de ma maison, c'est là que je commence à avoir véritablement un malaise. On sait que de toute façon, même si demain matin ou demain soir, je fais une fête à la maison et que je reçois 20 personnes sans masque et que tout le monde s'embrasse, la police ne va pas débarquer chez moi nécessairement. Donc, il n'y a pas le contrôle policier, mais le simple fait que ce soit interdit, ça crée un sentiment d'état-police et on n'a pas envie de vivre dans un état-police. C'est ça qui est fondamental dans ce dont on parle.
C'est sans précédent que le gouvernement vienne dicter ce qui se passe à l'intérieur des murs de notre maison. Là encore, il faut faire l'équilibre. Est-ce que la gravité de la crise, puis l'efficacité possiblement démontrée de telles mesures, il faut faire cette discussion-là, puis voir si où on trouve le point d'équilibre. Moi, ce qui m'ennuie un peu, c'est que ces règles-là sont très détaillées, alors que, dans le fond, si on y pense, quelqu'un pourrait faire une fête chez lui ou chez elle de 15 personnes, mais imposer des règles très sévères, par exemple demander à tout le monde d'être testé avant de rentrer, voilà, etc. Puis ça serait une fête qui serait correcte, tandis que tu peux faire une fête de 8 personnes, donc de moins de personnes, mais là, s'il y a personne vacciné, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de test, c'est beaucoup plus dangereux. Mais la règle, elle, est très arbitraire, et donc ça touche un paquet de familles qui, pour une raison ou pour une autre, peuvent pas se réunir ou tout ça, même s'ils prennent toutes les précautions. C'est une façon, dans le fond, de substituer le jugement du gouvernement par rapport au jugement des individus. Je comprends qu'il y a des individus qui sont irresponsables, puis ces gens-là, ils le seront de toute façon, quelles que soient les règles. Mais il faut aussi laisser un peu de place à la responsabilité des individus.
Tout à fait. On en appelle, en effet, à la responsabilité des gens. Et vous l'avez dit, la raison pour laquelle aussi il y a des tests. Le gouvernement nous dit donne des informations complètement contradictoires. On vous donne des tests gratuits. Vous en avez 5 chacun par mois. Mais on vous demande de pas les utiliser si vous avez pas de symptômes. Alors que, bon, moi, j'ai fait une entrevue la semaine dernière avec quelqu'un, un Canadien qui vit maintenant en Suisse, où il s'occupe justement de la lutte contre la COVID. Et il dit, ben, en Suisse, il y a eu distribution de tests. Et au contraire, on encourage les gens à se tester avant de se rencontrer en famille. C'est une utilisation beaucoup plus intelligente. Donc, on dit aux gens, oui, vous pouvez vous réunir en famille, mais simplement testez-vous avant pour s'assurer que vous donnez pas la COVID à grand-maman. On aimerait ça qu'au Québec et au Canada, on fasse appel à l'intelligence des gens. André, je veux juste, il nous reste un petit peu de temps, revenir sur quelque chose que vous avez tweeté il y a quelques jours de ça. Vous faisiez une comparaison entre les chiffres du Québec et de l'Ontario. Bon, les chiffres ont peut-être changé un petit peu depuis, mais il reste que, mutatis mutandis, si on compare le Québec et l'Ontario, par exemple, il y a beaucoup plus de gens hospitalisés ici qu'en Ontario. Vous expliquez ça comment, André?
Écoutez, évidemment, là, on ne sait plus si on doit se fier aux chiffres non plus, parce qu'il y a toutes sortes de considérations là, sur la validité de ces chiffres-là. Mmh. Mais en fait, tout ce que je faisais sur Twitter, c'est de poser la question, parce que moi, j'ai pas vraiment la réponse. Vous savez, là, la première vague, les chiffres du Québec étaient beaucoup moins bons, que c'était beaucoup plus grave que ceux de l'Ontario. Et l'explication, c'était la semaine de relâche. Je me souviens qu'on parlait de la semaine de relâche. Mais là, la situation se ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans la première vague, sauf qu'évidemment, il y a beaucoup moins de décès, heureusement, mais il reste que la situation au Québec, proportionnellement parlant, est plus grave que celle de l'Ontario, et moi, j'ai pas vu d'explication convaincante. C'est certainement pas une question de la semaine de relâche, là, on n'est pas là du tout. Oui. Donc, il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de cause, et je sais pas ce que c'est. Je sais pas si vous avez une hypothèse, moi, je le sais pas.
Ben, j'en aurais peut-être une, mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, alors va falloir que ce soit notre prochaine rencontre qu'on s'en parle. André Pratt, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc chroniqueur, commentateur dans différents médias. Et ben, ça a été un plaisir d'échanger avec vous, un ancien collègue du journal La Presse. Merci beaucoup, André.
Merci, Sophie. À bientôt.
Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Jean-François Paquet à la mise en onde, Florence Lamoureux et Julien Boutillier à la recherche. Et je vous dis rendez-vous demain.
Cube Radio.